De l'autre côté de la musique, une émission au regard classique abordée sous des manières singulières avec la participation de Michel Giardella. Bonjour Michel.
Bonjour.
Toujours une thématique ou un compositeur à l'affiche. Aujourd'hui, ben je vous laisse introduire le menu.
Eh bien aujourd'hui, tout simplement, Tchaïkovski.
Voilà, premier extrait dont Michel va nous signifier un petit peu pourquoi cette introduction et pourquoi ce compositeur qui semble bien entouré de mystères.
Eh bien, Tchaïkovski est un compositeur russe, bien sûr. Il est issu de la grande tradition des musiciens russes. Ses amis étaient le groupe des cinq, des grands compositeurs russes, César Cui, Balakiriev, Borodine, Moussorgski. Et bien sûr, il a été le fils spirituel de ces grands compositeurs russes, avec un côté plus occidentalisé, une musique plus occidentalisée que ces autres compositeurs russes qui trouvaient essentiellement leur source d'inspiration dans le folklore de l'Asie centrale, dans le folklore russe, ukrainien. Donc voilà, mais pourquoi on va parler au jeu de Tchaïkovski ? On va parler de Tchaïkovski parce qu'il est arrivé quelque chose de terrible. Je vais vous lire un petit avis que j'ai trouvé dans un journal que je lis actuellement. C'est au sujet de la Russie actuellement. L'ordre public. Vladimir Medinsky, ministre de la Culture de Poutine, soutient depuis 3 ans que l'homosexualité de Tchaïkovski est une invention américaine et l'échec de son mariage un trouble banal. Théorie fondée sur les lettres du musicien caviardé par le régime soviétique dans une édition obsolète que le ministre, avec l'appui du scénariste Yudi Abarov, a voulu toutefois imposer au réalisateur du film, Kirill Serebrennikov, en échange des fonds nécessaires à la réalisation d'un biopic orthodoxe. Donc, pas le droit en Union soviétique, en Russie, j'allais dire l'Union soviétique, mais ça a été pareil, pas le droit de parler de l'homosexualité de Tchaïkovski.
Une transversale dans l'histoire ?
Ouais.
Tout au moins en Russie.
Tout au moins en Russie. Hein. En Russie, c'est interdit, mais ça a traversé la Russie tsariste, la Russie communiste de Staline, puisque Tchaïkovski était le compositeur préféré de Staline. Et là, c'était encore pire. On n'a jamais évoqué l'homosexualité de Tchaïkovski. Et même actuellement, donc, on réfute cela. Et il y a les films qui sont sortis en Russie, font abstraction de cette histoire. Et pourtant, on sait très bien que Moussorgski ne s'en cachait pas. Je me souviens avoir vu, alors ça, j'avais été très troublé, des lettres qu'envoyait Tchaïkovski à sa famille. Et ces lettres avaient par moments décroché, des points de suspension et décroché. Et c'est fermé. Et je me demandais toujours pourquoi on avait cette espèce de censure. Parce que Tchaïkovski, qui était quelqu'un de très méticuleux dans ses correspondances, disait les noms des personnes qu'il avait fréquentées, il avait vécu une histoire amoureuse, et c'était des hommes. Donc, dans sa correspondance, quand on l'avait, on n'arrivait pas à... On avait ses crochets, ses points de suspension, on ne savait pas. C'était interdit. Voilà. Alors, Tchaïkovski étant quand même un musicien très important, il a traversé toute cette époque tsariste, du temps du roi Alexandre, du tsar Alexandre III. Et il a aussi été très célèbre. Il a énormément voyagé en Italie, en Allemagne, il est allé aux États-Unis où il a rencontré quand même les triomphes. Et il faut dire que c'était aussi le grand créateur de 3 grands ballets qui sont toujours joués, hein, à Moscou, au Bolchoï, au Kirov, à Leningrad, on joue à Leningrad, à Saint-Pétersbourg, pardon, on joue toujours les 3 ballets de Tchaïkovski, La Belle au bois dormant, Casse-noisette, hein, c'est toujours joué. Donc j'ai choisi un petit peu pour faire une petite pause là, d'un voyage qu'il a fait en Italie, mon souvenir de tous ces ballets, une petite valse d'une sérénade qu'il a écrite. Thank you.
quelque chose d'assez léger.
Léger. Hein? C'est au cours de son voyage en Italie qu'il a, c'est au cours de ce voyage en Italie qu'il a écrit cette musique qui est très sereine. Hein. Elle aurait pu être dans un ballet, hein, qu'il a, un ballet qu'il a écrit. Voilà. Mais Tchaïkovski, c'est quand même un personnage complexe et beaucoup plus tourmenté que ce qu'on peut croire, que peut laisser croire ce que nous venons d'entendre.
Est-ce que ses œuvres avaient donné un certain écho finalement à ses tourments tout au long de sa vie, ou sa manière d'être, sa situation?
Ah, je pense que sa musique est de cette époque-là. Déjà, il y avait en Russie, il y avait les mouvements nihilistes, hein, qui étaient présents. Et sa musique, finalement, est passionnée, mais assez sombre. Hein. Il ne faut pas le juger au premier abord. Hein. Elle est très complexe. Il a écrit de très belles œuvres de musique de chambre, des quatuors, un très beau sextet, Souvenir de Florence. Mais bon, il avait quand même une sensibilité à fleur de peau. Hein. Donc on retrouvera cette sensibilité dans sa musique. Voilà, alors Tchaïkovski, bien sûr, son homosexualité lui valut des gros problèmes. Hein. Et la pression qui était tenue sur lui par sa famille, par tout son entourage, valut qu'il prenne une décision un jour dramatique. Et je vais vous lire la lettre qu'il envoie à son frère. Lui annonçant une décision terrible. « À partir de ce jour, je ferai tout ce qui sera possible pour épouser n'importe qui. Je sais que mes penchants sont le plus grand et le plus insurmontable obstacle au bonheur et je dois de toutes mes forces combattre ma nature. Je ferai l'impossible pour me marier cette année. Même si je n'ai pas assez de courage pour cela, je romprai avec mes habitudes. » La pensée que ceux qui m'aiment ont parfois honte de moi me tue. Cela s'est produit 100 fois et se produira encore 100 fois. En un mot, je voudrais par un mariage ou une relation officielle avec une femme faire taire toute cette canaille que je méprise mais qui peut faire souffrir ceux qui me sont chers. Mais je suis trop profondément enfoncé dans mes habitudes et dans mes goûts pour pouvoir les rejeter d'un seul coup comme un vieux gant. Je n'ai pas un caractère très ferme et depuis ma dernière lutte, j'ai déjà cédé 3 fois à la force de mes inclinations. » Témoignage un peu dur, hein, qu'on ne s'attendait pas à ça de Tchaïkovski. Hein. Donc, il va épouser une de ses élèves. Et bien sûr, ce sera un terrible fiasco. Il ne supportait pas la présence de cette femme à ses côtés. Il hésita à l'embrasser le jour de son mariage, quand le pape avait béni l'union. Bon, c'était quelque chose de très difficile. Et pourtant, les gens qui ne connaissaient pas la vie intime de Tchaïkovski pouvaient avoir une autre impression de lui. Écoutons, il a écrit une 5e symphonie où il y a une espèce de thème. Il avait été influencé un peu par Wagner aussi. Il était allé à Bayreuth, et où il y a le chez Wagner, il y a le leitmotiv, le thème qui revient tout au long de son opéra. Et là, il a écrit dans sa 5e symphonie un thème qui revient dans le premier mouvement, dans le deuxième mouvement et dans tous les mouvements. Je vous propose cette espèce de thème du destin qui traverse cette 5e symphonie de Tchaïkovski. Je vous propose le final qui donne une image un peu de virilité, de passionné, qui donne peut-être des fois une image un peu fausse de Tchaïkovski.
Ouais, un apparat, on pourrait
un
dire.
Un apparat, voilà. Ouais. Écoutons ce mouvement, le final de la 5e symphonie de Tchaïkovski.
Thank you.
Tchaïkovski avec bien toute sa magnificence, on peut dire, dans
sa puissance,
qui est bien exprimée dans cette cinquième symphonie, qui donnait aussi peut-être un contre-pied à ce que l'on pouvait dire à l'époque,
voilà.
Donner un certain sens de virilité à travers sa partition.
Voilà, donc l'échec du mariage de Tchaïkovski, puisqu'il divorça, cette pauvre, c'était une de ses élèves, elle fut enfermée dans un asile psychiatrique, elle ne survivait pas, mais il a eu aussi, il faut dire, une autre femme dans sa vie, c'est Madame Nadezhda von Meck, qui était une admiratrice de Tchaïkovski, qui lui fournit une rente pendant une grande partie de sa vie, de 6000 roubles, qui était une somme énorme à l'époque, mais il ne la rencontra jamais. Il ne la rencontra jamais, et c'était cette protectrice qui l'inondait d'argent. Mais apprit-elle un jour l'homosexualité de Tchaïkovski ? Avait-elle l'espoir qu'il allait épouser une de ses filles ? Enfin, un beau jour, elle lui annonça qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle arrêtait de l'aider. Donc Tchaïkovski essaya de continuer une correspondance avec elle, mais ce fut terminé. Et le tsar Alexandre III prit le relais de la somme d'argent qu'il ne touchait plus pour lui faire quand même une vie confortable. Mais elle est importante parce qu'il lui a quand même dédié sa quatrième symphonie, ce qui n'était pas rien. Donc, des problèmes quand même avec les femmes, hein, Tchaïkovski. C'est, alors, nous en arrivons peut-être à quelque chose de terrible qui est encore toujours débattu. C'est la mort de Tchaïkovski. Que se passa-t-il à sa mort ? On l'attribue généralement au choléra. Officiellement, il est mort du choléra. Mais... bon, moi je me suis un peu renseigné sur le choléra, et quand quelqu'un mourait au 19e siècle du choléra, j'ai rencontré le docteur Épaulard m'a raconté qu'il fallait tout de suite enterrer les gens, dans la journée pratiquement on les enterrait, et en Russie c'était exactement pareil, il fallait les enterrer tout de suite, dès qu'une personne mourait du choléra, on fermait le cercueil et on ne voyait plus la personne. Or, que se passa-t-il ? Quand Tchaïkovski est mort, on le mit dans son cercueil et on laissa le cercueil ouvert. Certains, même des musiciens, vinrent l'embrasser. Or, le vibrion, qui est le bacille du choléra, est quelque chose qui se transmet à une vitesse inouïe, qui s'étale très très rapidement. Donc la solution, c'est tout de suite isoler la personne qui est atteinte du choléra. Donc, il y a eu un paradoxe dans cette mort. Et donc on s'est contenté jusque dans les années à peu près 70, pardon, on s'est contenté de cette mort du choléra. Et puis, une personne, en 1979, émigra aux États-Unis. Elle s'appelait Alexandra Orlova. Et Alexandra Orlova fit une révélation par son mari et par une fréquentation qu'elle avait. C'était un élève historien du collège impérial de la jurisprudence de Saint-Pétersbourg où Tchaïkovski avait fait ses études. Qu'est-ce qu'elle révéla ? Elle révéla que Tchaïkovski aurait eu des penchants amoureux pour le fils d'un personnage très important, Steinbock Fermor, et qui était responsable, une grande responsabilité chez les tsars. Et Tchaïkovski aurait fréquenté donc son fils qui avait 17 ans. Cela allait faire un scandale. Donc les élèves du collège contemporain de Tchaïkovski se réunirent et décidèrent qu'il devait se donner la mort et qu'ils lui fournirent le poison et Tchaïkovski se serait empoisonné. il serait mort empoisonné à cause de cette homosexualité. Voilà. Alors, pourtant, c'est très discutable parce que à la cour, le frère du tsar était homosexuel. Il y avait une quinzaine de personnes très importantes à la cour du tsar qui étaient homosexuels, mais qui n'étalaient pas leur homosexualité. On savait qu'ils étaient homosexuels, ils ne l'étalaient pas. Donc, c'est encore une histoire qui pose un petit peu des problèmes, qui n'est pas claire, et on ne sait pas trop. Régulièrement, dans la presse, on trouve des articles sur Tchaïkovski, la mort de Tchaïkovski, et reste une énigme. Une énigme parce qu'on n'a pas les éléments qui permettent de trancher. Comme je vous l'ai dit, du temps des tsars à la mort de Tchaïkovski, on ne parla plus de sa mort, on ne parla plus de son homosexualité. Alexandre III avait jeté le voile. Staline, qui adorait Tchaïkovski, jeta lui aussi le voile sur l'homosexualité de Tchaïkovski et il était mort du choléra. Quand le communisme s'effondra, ce fut Poutine. Et Poutine, pareil, on dissimula l'homosexualité de Tchaïkovski, même jusqu'à présent. Donc, voilà un peu l'histoire de notre Tchaïkovski. Alors, je vous propose pour finir un petit texte de Tchaïkovski sur la musique, que je l'ai trouvé bien, bien intéressant, hein. Écoutons ce dernier mot qui revient à Tchaïkovski. Écoutons-le. « J'ai atteint un âge très avancé sans jamais m'être appuyé sur rien de positif, sans avoir cherché à calmer l'agitation de mon esprit par les secours de la philosophie ou de la religion. Je serais certainement devenu fou sans la musique. Celle-ci est assurément le plus beau don du ciel à l'humanité qui erre dans la nuit. » Elle apaise et éclaire nos âmes. Ce n'est pas la branche à laquelle s'agrippe l'homme qui se noie, c'est une véritable amie, un refuge et une consolation qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Peut-être n'y a-t-il pas de musique dans l'au-delà, alors consacrons-lui le temps qu'il nous reste à vivre. Pour finir, moi je vous propose le final de sa sixième symphonie, la symphonie pathétique, qu'il dirigea 9 jours avant sa mort.
Merci voilà. Beaucoup Michel pour toute cette ligne de vie de ce grand compositeur russe de musique classique avec lequel nous allons refermer cette émission naturellement. Une œuvre emblématique.
Voilà la symphonie pathétique, une des plus célèbres de ses symphonies.
Et bien voilà, pour refermer cette émission spéciale autour de ce grand compositeur russe dont on vient d'écouter la 6e symphonie, assez emblématique, plutôt pathétique, Michel, semblerait-il.
C'est son terme exact, comme surnom, la pathétique.
De Piotr Ilitch Tchaïkovski. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour bien toute cette intrigue qui a encadré ce compositeur et qui continuera toujours à perdurer hein, oui. dans l'histoire de la musique et bien au-delà. Merci beaucoup. Michel Giardella, on vous donne rendez-vous dans un mois pour une autre thématique, un autre compositeur pour De l'autre côté de la musique. À bientôt.
Au revoir.
Merci.